ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Campus Tours. Il est 7h16, l'heure de la matinale des étudiants de journalisme de Tours. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette petite heure d'émission en ce vendredi 29 novembre. Au programme ce matin, Flash Info présenté par Mathis Maudet, puis un retour sur l'actualité de la semaine avec une revue de presse présentée par David Alias, des chroniques sur l'apologie du terrorisme, sur l'eau, une page internationale et une interview avec Jules Bourbotte et Lou Attard, suite à leur enquête journalistique sur les stages de survie. Vous êtes bien sur Good Morning Tour 99.5 FM, il est 7h17, tout de suite les informations.
L'Australie interdit l'accès à Internet pour les moins de 16 ans. Une loi a été adoptée ce jeudi 28 novembre au Parlement. L'objectif, limiter l'addiction à des réseaux sociaux comme X, Instagram ou TikTok. Exception faite pour WhatsApp et YouTube qui permettent aux plus jeunes de s'instruire et de faire leurs devoirs. En Australie, la législation interdisait déjà l'accès au web pour les moins de 13 ans, mais elle était contournée. Cette nouvelle loi sera donc effective en 2025. Retour en France maintenant où les agriculteurs se mobilisent. Ils étaient quelques centaines à ériger des murs de parpaings devant l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement à Paris. Ils étaient environ 80 devant la préfecture d'Indre-et-Loire à Tours ce mercredi. Les exploitants agricoles ont intensifié leurs actions pour protester contre l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, qu'ils considèrent comme une menace pour l'agriculture française. Les députés et les sénateurs français ont voté pour le rejet du texte en l'état cette semaine, selon la volonté du gouvernement. On se dirige maintenant à Avignon pour évoquer le procès Mazan. À l'issue de 3 jours de réquisitoire, des peines de 4 à 20 ans de prison ont été requises contre les 51 accusés ce mercredi 27 novembre. Parmi eux, Dominique Pellicot, le mari de Gisèle, encourt la peine maximale requise à son encontre, 20 ans de réclusion de criminel. Il est poursuivi pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme par 50 hommes de 2011 à 2020. Le verdict du procès est attendu au plus tard le 20 décembre. La France reconnaît le massacre de tirailleurs africains. Dans une lettre adressée au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, Emmanuel Macron reconnaît comme massacre le meurtre de tirailleurs africains à Tiaroy. En 1944, le 1er décembre de cette année, entre 35 et 400 membres des tirailleurs sénégalais avaient été tués par les forces françaises après une mutinerie liée à des salaires impayés. L'annonce a été rendue publique par le président sénégalais sur France 2. Cette reconnaissance intervient 80 ans après le drame. En conclusion de ce journal, l'entrée en lice parfaite des Françaises à l'Euro de handball. Emmenée par la gardienne Laura Glauser, élue joueuse du match avec 8 arrêts, les Bleus ont largement dominé la Pologne 35-22 pour lancer leur tournoi à Bâle, en Suisse. La France se place donc en tête de son groupe devant l'Espagne qui a, elle, battu le Portugal. Le prochain match des Bleus est prévu samedi à 18h contre des Espagnols en forme. Elles avaient d'ailleurs battu les joueuses d'Olivier Crumbles 27-28 vendredi dernier.
Merci Mathis Maudet, il est 7h19, l'heure de la chronique judiciaire. On revient sur la proposition d'abrogation de l'apologie du terrorisme déposée par le député LFI Hugo Bernalicis le 19 novembre dernier. À ses côtés, la chef de file du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, convoquée pour l'apologie du terrorisme en avril dernier. Le député insoumis dénonce à travers cette proposition une utilisation abusive du délit d'apologie du terrorisme. Jules Bourbotte, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi LFI a fait le choix de revenir sur ce texte ?
Eh bien, cette loi du 13 novembre 2014 avait été créée pour inscrire au code pénal l'apologie du terrorisme, alors régie par le droit de la presse, avec entre autres l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La proposition d'LFI ferait donc faire à la loi le chemin inverse, repassant de fait dans la législation relative à la presse, comme l'évoquait sur le plateau de BFM TV Mathilde Panot.
Ce que disent nombre de juristes des organisations internationales, c'est que cette apologie du terrorisme, dans la manière dont elle est dévoyée aujourd'hui, est une atteinte à la liberté d'expression, est une atteinte à l'état de droit. Donc en quelque sorte...
Les attentats du 7 octobre ont fait augmenter drastiquement le nombre de plaintes et de signalements. Selon l'AFP, le parquet de Paris a enregistré 386 saisines en lien avec le conflit israélo-palestinien pour la seule période du 7 octobre au 23 avril 2024. Le Hamas étant une organisation terroriste, l'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti avait instauré une politique particulièrement rude à l'encontre des délits d'apologie du terrorisme, faisant écho aux raids meurtriers sur Israël. Depuis, l'on a constaté certains cas d'abus autour du délit, des cas pouvant fortement salir les personnalités visées par les éventuelles plaintes. C'est notamment le cas cité par Hugo Bernalicis, du responsable de la CGT du Nord, condamné à un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme après avoir écrit dans un tract « Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi 7 octobre, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. » Fin de citation. Dans l'exposé de motifs de la proposition de loi, le député évoque ainsi des méthodes antiterroristes utilisées pour réprimer des militants politiques, des militants associatifs, des journalistes ou encore des syndicalistes.
Mais alors pourquoi la loi a été initialement transférée au code pénal ?
Et bien tout ça remonte à 2014. Hein. La loi contre l'apologie bénéficie d'une sorte de promotion. La raison invoquée est simple. À cette période, voit le jour le califat de l'État islamique entre les territoires syriens et irakiens contrôlés par l'organisation terroriste. Se multiplient alors en ligne des contenus à la gloire de l'EI, vus et partagés en masse, le tout alimentant de fait la propagande terroriste. Pour y répondre, l'apologie du terrorisme devient un délit sous le coup du droit antiterroriste. Ce droit prévoit une marge de manœuvre plus permissive afin de répondre à une urgence sans subir les affres de la paperasse et les délais habituels de la justice. Une prescription allongée, des gardes à vue à la durée extensible à 96 ou 144 heures, des comparutions immédiates et des peines alourdies en prison ferme jusqu'à 5 à 7 ans au lieu d'amende initialement prévue.
Mais aujourd'hui, la publication de la proposition d'abrogation a essuyé un tollé.
Effectivement, largement décrié, notamment par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a qualifié d'innommable la proposition. En cause, un projet pas ou peu concerté, ayant pris de court le parti insoumis, aucun compromis permettant de s'attirer quelques soutiens supplémentaires et une mauvaise communication. Mais surtout, un timing au mieux discutable, au pire parfaitement provocateur, à exactement 7 semaines des 10 ans de l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo. Jean-Luc Mélenchon s'est érigé en défenseur de la proposition, en dénonçant sur X une nouvelle agression contre LFI, alors qu'Olivier Faure, premier secrétaire du PS, n'évoquait de son côté que la nécessité de préciser l'apologie du terrorisme pour éviter les dérives. La proposition n'a pas été retenue par LFI pour être présentée devant l'Assemblée nationale hier, lors de la niche parlementaire, supplantée par une autre abrogation, sinon clivante, moins polémique, la réforme des retraites.
Merci Jules Bourbos, vous écoutez Good Morning Tour, il est 7h23, tout de suite la revue de presse. Bonjour David Alias.
Bonjour.
Que peut-on retenir dans les médias cette semaine ?
Une bonne nouvelle de courte durée et pourtant l'histoire avait bien commencé. Dans la nuit de mardi à mercredi, avec la signature d'un cessez-le-feu de 60 jours entre le Hezbollah et l'armée israélienne, une trêve laissant apparaître une lueur d'espoir pour les populations libanaises, espérant enfin pouvoir rentrer chez elles. Le président du Parlement libanais, Nabi Berri, avait même laissé entendre la possibilité d'une organisation d'une élection présidentielle. Une initiative soutenue par la France et Emmanuel Macron, à l'origine avec les États-Unis, de la signature de ce cessez-le-feu. Mais voilà, à peine un jour après la signature de cette trêve, Israël frappait à nouveau le Hezbollah au sud du Liban, d'où les membres sont censés se retirer. Focus sur ce qui est certainement l'un des cessez-le-feu les plus rapides de l'histoire moderne. Pour le journal Le Monde, la guerre est l'horizon indépassable de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a eu coutume de qualifier ce conflit de « guerre de rédemption » et a avoué mercredi matin que ce cessez-le-feu était un moyen de reposer les troupes et recharger les armes. C'était la première frappe depuis l'instauration la veille d'une trêve encore fragile, ajoutait Libération hier, en insistant sur la frappe par un avion de chasse israélien d'une zone forestière non accessible aux civils. Un tir motivé par l'identification, selon l'armée israélienne, d'une activité terroriste dans une installation utilisée par le Hezbollah pour stocker des roquettes à moyenne portée dans le sud. Pour le Liban, c'en est trop, Israël a déjà violé à plusieurs reprises l'accord de ce cessez-le-feu. Pour Ouest France aussi, cette trêve est un accord fragile. Le premier quotidien régional français s'interroge sur la rupture du cessez-le-feu compte tenu des dernières déclarations de Benjamin Netanyahou promettant une guerre intensive si le cessez-le-feu était rompu. Et cette vision offensive de la trêve est également rapportée dans les colonnes du quotidien israélien Haaretz. Je cite « Pour garantir le respect du cessez-le-feu par le Hezbollah et le Liban, l'armée israélienne estime que l'accord devra être appliqué avec fermeté et parfois impliqué de faire feu ». Pourtant, la veille, l'espoir faisait son apparition au Proche-Orient. Dans le nord, Israël, dans le nord d'Israël, les habitants soulagés mais sceptiques, titrait le Figaro, insistant sur le silence des sirènes, pour la première fois depuis des semaines. Le quotidien revenait également sur le discours presque apaisant de Benjamin Netanyahou, et pour cause, le Premier ministre israélien avait affirmé qu'un bon accord était un accord respecté. Mais ce cessez-le-feu ne faisait pas disparaître certaines questions, et Libération se demandait hier si la France avait concédé une immunité à Benjamin Netanyahou pour figurer dans l'accord de ce cessez-le-feu au Liban, après qu'Emmanuel Macron a annoncé reculer sur le mandat d'arrêt du Premier ministre israélien par la Cour pénale internationale.
Merci pour cette revue de presse. Il est 7h26, vous êtes bien sur Good Morning Tour. Maintenant, une petite pause musicale.
Come.
écouter Carry Me Away de Cypress Hill. Il est 7h31. Vous êtes toujours dans la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours sur Radio Campus. On ouvre maintenant notre page internationale avec quelques brèves d'actualité. L'Asie est frappée par la tempête tropicale Fingal. Des pluies torrentielles accompagnant la tempête tombent depuis mercredi au Sri Lanka, faisant au moins 12 morts et 300 000 déplacés. La tempête progresse vers le sud-ouest de l'Inde. Le pays reste en alerte. De l'autre côté de l'Inde, au Pakistan, on compte 111 morts et plus d'un millier d'arrestations en 3 jours. Les soutiens d'Imran Khan rassemblés en début de semaine vers la capitale pour demander la libération de cette ex-premier ministre, des manifestations vite transformées en émeutes avec une violente répression de la part du gouvernement. Aujourd'hui, le calme semble être revenu dans la capitale. Round final pour la loi internationale contre le plastique. Depuis lundi et jusqu'à dimanche, 175 pays se réunissent à Busan, en Corée du Nord, pour se mettre d'accord sur un traité international. Objectif, limiter la pollution plastique, deux fois plus présente en 20 ans selon l'OCDE, et un risque de doubler jusqu'en 2040. Ambition du sommet international, trouver un terrain d'entente pour limiter la production de plastique et interdire les substances toxiques dérivées du pétrole. Mais les discussions piétinent, les pays producteurs de pétrole refusent de limiter la production en matière vierge, ils pointent les risques économiques de la limitation de cette industrie, ils préfèrent se contenter de défendre le recyclage des déchets. Les pays ont jusqu'à dimanche pour trouver un terrain d'entente et fournir un traité mondial.
Merci Victoire Renard de Winter pour cette page sur l'Asie. On passe en Afrique maintenant, où les pays du Sahel s'éloignent de plus en plus de la France. Hier, le ministre des Affaires étrangères tchadien Abderrahmane Koulamala a annoncé mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française dans un communiqué publié sur la page Facebook du ministère. Cette décision intervient seulement quelques heures après la visite au Tchad du ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot. Le Tchad était jusqu'alors le dernier pays du Sahel à abriter les forces françaises. 13 morts et 113 disparus en Ouganda. Hier, au moins 15 personnes ont perdu la vie dans des glissements de terrain après de fortes pluies dans le district de Bulambuli, à 300 km de la capitale Kampala. 113 personnes sont encore portées disparues et sont toujours activement recherchées par les secours, gênées dans leurs opérations par des routes rendues impraticables par les pluies diluviennes, déplorait la police locale. En Mauritanie, Nouakchott, capitale du pays, est menacée par des inondations. Construite sur une nappe phréatique, de nombreux terrains sont considérés comme inondables. Victoire Renard de Winter, journaliste en formation à l'école publique de journalisme de Tours, s'est rendue sur le terrain la semaine dernière avec Meina et Saed, deux journalistes mauritaniens, pour comprendre les enjeux de la construction en terrain inondable dans le pays.
Au nord de Nouakchott, à 4 km de l'océan, des dizaines de camions s'enfoncent dans les dunes. En rythme, Mohamed et ses collègues récupèrent le sable.
On charge les camions à 500 emiri. On fait 6 à 7 voyages par jour. On gagne entre 500 et 700 emiri par jour, mais ce n'est pas un revenu fixe. Parfois, on commence à creuser. L'eau sort, on arrête le travail et on part.
Dans la capitale, l'eau est proche de la surface du sol. La ville est construite sur une nappe phréatique avec plusieurs zones inondables. Directeur exécutif du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine de l'Afrique de l'Ouest, Dr Ahmed Senouri, observe l'urbanisation de ces zones.
Si on arrive à prendre du sable, on donne la chance à l'eau d'affleurer très rapidement. C'est comme si on creuse un puits.
Mais la ville s'est développée de manière anarchique et de manière aussi très rapide parce qu'on continue encore à construire, continue à distribuer des terrains.
Pour Moussa Elimansa, l'expert climat et développement durable, les responsabilités et les réponses appartiennent à tous.
C'est une action collective qui peut changer le secteur, mobiliser les communautés, les orienter dans le sens de ne pas investir massivement sur des constructions sur le littoral. Il faudrait que l'État propose des alternatives, donner des nouvelles zones d'habitation à ces populations parce qu'il y a un exode rural très fort qui vient de l'intérieur du pays. Le gouvernement a envisagé à un moment de délocaliser la capitale. Si les choses se compliquent davantage, on devrait repenser à cette option-là, quel que puisse en mettre le prix.
Des quartiers fantômes comme Sokojim PS et ses maisons vides ont déjà un Nouakchott.
On file sur le continent américain maintenant. Jusqu'à 30 ans de prison pour un soutien aux sanctions internationales. C'est la loi presque incroyable adoptée par le Parlement vénézuélien hier. Une loi punissant de 25 à 30 ans de prison tout soutien aux sanctions internationales à l'encontre du régime de Nicolas Maduro, dont la réélection est contestée. Cette loi répond à l'adoption le 18 novembre par la Chambre des représentants des États-Unis d'un texte visant à renforcer les sanctions contre le président vénézuélien. Aux États-Unis, justement, Donald Trump fait son chef d'orchestre. Trois semaines après sa réélection, le futur président compose actuellement son cabinet. Une équipe fantasque à son image où se côtoient des figures controversées, anciennes stars de télévision et milliardaires de la tech, réunies autour d'un projet de rupture pour redonner une toute nouvelle image aux États-Unis. Donald Trump prendra ses fonctions le 20 janvier 2025 prochain. En Haïti, la situation ne s'améliore toujours pas. Le pays, toujours orphelin d'un gouvernement stable, est encore miné par la loi des gangs, notamment dans sa capitale, Port-au-Prince. L'UNICEF dresse un constat alarmant. La moitié des membres des gangs sont des enfants. En un an, ce nombre a bondi de 70%. Louattard, à quoi est dû ce pic sans précédent ?
Haïti semble bloqué dans une crise sans fin, économie au ralenti, instabilité politique et insécurité. Le pays le plus pauvre des Amériques est sous le joug des gangs. La situation du pays s'est particulièrement dégradée en juillet 2021 quand Jovenel Moïse, président depuis 2016, est assassiné à son domicile. Une page sanglante d'Haïti menant à une impasse politique jusqu'en février 2024.
Et comment ces gangs s'y prennent pour prendre le contrôle de l'île ?
Eh bien, comme l'a bien décrit Daring de l'ONG International Crisis Group, ils unissent leurs forces et créent une sorte de front pour attaquer les infrastructures critiques et les institutions de l'État. Ils veulent montrer qu'ils ont la capacité de mettre l'État à genoux. Fin de citation. Ils s'en prennent aussi régulièrement aux civils. Sur le plan politique, ces groupes armés, menés par Jimmy Chérizier, ancien policier et devenu chef de gang, se sont rassemblés en coalition pour obtenir le départ du Premier ministre Ariel Henry, démissionnaire en avril. Les gangs contrôlent environ 80% de la capitale, Port-au-Prince.
Pour revenir aux enfants dans les gangs, comment réussissent-ils à les recruter ?
Alors d'après l'UNICEF, la protection de l'enfance est dans une situation critique. Les causes sont multiples, l'escalade de la violence, la pauvreté, le manque d'accès à l'éducation et l'absence de services essentiels. Certains choisissent cette voie pour protéger leur famille, d'autres y sont forcés et peu d'institutions cherchent à récupérer ces enfants ou à les réinsérer après leur départ des groupes armés. Les gangs procèdent à de nombreux enlèvements et infligent des violences physiques et sexuelles sur leurs jeunes recrues. Ces enfants deviennent de la main-d'œuvre polyvalente. Ils collectent les informations, peuvent s'occuper de la livraison de drogue ou encore des tâches domestiques. Selon Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF, les enfants d'Haïti sont pris au piège dans un cercle vicieux. Ils sont recrutés par les groupes armés qui alimentent leur désespoir.
Merci Lou, la page internationale est terminée. Petite pause musicale avec Phoenix de Listomania.
Gentlemen only, wealthiest gentlemen only, but now that you're lonely. Maria. Think less but see it grow. Like a rhino. Not easily offended. Not let it go. From a mess to the masses.
Listomania de Phoenix, vous écoutez Good Morning Tour, il est 7h42, l'heure du second Flash Info de Mathis Maudet.
Et on commence avec une première mondiale. L'Australie interdit l'accès à Internet pour les moins de 16 ans. Une loi a été adoptée ce jeudi 28 novembre au Parlement. L'objectif, limiter l'addiction à des réseaux sociaux comme X, Instagram ou TikTok. Exception faite pour WhatsApp et YouTube qui permettent aux plus jeunes de s'instruire et de faire leurs devoirs. En Australie, la législation interdisait déjà l'accès au web pour les moins de 13 ans, mais elle était contournée. Cette nouvelle loi sera effective en 2025. Retour en France maintenant où les agriculteurs se mobilisent. Ils étaient quelques centaines à ériger des murs de parpaings devant l'Agence nationale de sécurité sanitaire et l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à Paris. Ils étaient environ 80 devant la préfecture d'Indre-et-Loire à Tours. Les exploitants agricoles ont intensifié leurs actions pour protester contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur cette semaine, qu'ils considèrent comme une menace pour l'agriculture française. Les députés et les sénateurs français ont voté pour le rejet du texte en l'état, selon la volonté du gouvernement. On se dirige maintenant à Avignon pour évoquer le procès Mazan. À l'issue de 3 jours de réquisitoire, des peines de 4 à 20 ans de prison ont été requises contre les 51 accusés ce mercredi 27 novembre. Parmi eux, Dominique Pellicot, le mari de Gisèle Pellicot, encourt la peine maximale requise à son encontre, 20 ans de réclusion, 20 ans de réclusion criminelle. Il est poursuivi pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme par 50 hommes de 2011 à 2020. Le verdict du procès est attendu au plus tard le 20 décembre. La France reconnaît le massacre de tirailleurs africains. Dans une lettre adressée au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, Emmanuel Macron reconnaît comme massacre le meurtre de tirailleurs africains à Tioray. Le 1er décembre 1944, entre 35 et 400 membres des tirailleurs sénégalais avaient été tués par les forces françaises après une mutinerie liée à des salaires impayés. L'annonce a été rendue publique par le président sénégalais sur France 2. Cette reconnaissance intervient 80 ans après le drame. En conclusion de ce journal, l'entrée en lice parfaite des Françaises à l'Euro de handball. Emmenées par la gardienne Laura Glauser, élue joueuse du match avec 8 arrêts, les Bleus ont largement dominé la Pologne 35-22 pour lancer leur tournoi à Bâle, en Suisse. La France se place donc en tête de son groupe devant l'Espagne qui a, elle, battu le Portugal. Le prochain match des Bleus est prévu samedi à 18h contre des Espagnols en forme. Elles avaient d'ailleurs battu les joueuses d'Olivier Crumbles 28-27 vendredi dernier.
Mathis Maudet vient de nous le dire, la semaine a été marquée par les manifestations agricoles, le déclenchement, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Pour protester et exprimer leurs difficultés, les agriculteurs se sont rassemblés partout en France. Mercredi, Jules Frécon est allé à leur rencontre à Tours, devant la préfecture d'Indre-et-Loire.
18h. quelques représentants syndicaux sortent de la préfecture de Tours. Ils viennent de s'entretenir avec Thomas Campeau, préfet d'Indre-et-Loire. Nicolas Sterlin, vice-président de la FNSEA 37, a assisté à la réunion.
Le préfet était vraiment à notre écoute, ça c'est le côté très positif. Il comprend nos préoccupations, il comprend l'urgence de ce qu'on vit actuellement.
Cette rencontre, bien accueillie par les agriculteurs, intervient dans un contexte tendu. En cause, l'opposition de la profession au projet de traité de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne, mais pas seulement.
On conjugue à la fois une saison qui a été désastreuse et des problèmes qui sont beaucoup plus profonds, inhérents à l'agriculture française. Le problème de revenus pour nos agriculteurs, le problème de concurrence déloyale, le problème de normes abusives et de suradministration dans notre pays qui font qu'on n'a plus la liberté d'entreprendre, on n'a plus d'espoir de pouvoir avancer sur nos exploitations.
En début de soirée, les dizaines d'agriculteurs présents pour protester devant la préfecture quittent les lieux, causant de nombreux bouchons dans le centre-ville. Alors qu'il conduit son tracteur entre la gare et la mairie, Denis Rigaud, éleveur de vaches laitières près de Tours, nous partage les raisons qui l'ont poussé à rejoindre la mobilisation d'aujourd'hui.
On a de moins en moins de revenus sur nos exploitations, quoi. On travaille de plus en plus pour gagner moins. Alors, il faut toujours produire, et puis on gagne pas plus.
Ce n'est pas la première fois que Denis Rigaud se mobilise. En début d'année, il protestait déjà à côté de ses confrères pour une amélioration des conditions d'exercice du métier. En vain.
On n'a vu aucune différence, à part le carburant. Après, de toute façon, il faut bien se faire entendre. C'est un début, je ne sais pas ce que ça va apporter, mais de toute façon, la machine est lancée, puis on n'est pas prêt de s'arrêter, je pense.
Aujourd'hui, les syndicats agricoles doivent rencontrer la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, pour réfléchir sur les actions concrètes. L'eau en bouteille devrait coûter un peu plus cher bientôt. En effet, après les billets d'avion, les chaudières à gaz. Bah, pour redresser le budget de 2025, les sénateurs visent les bouteilles d'eau. Bonjour Lucas Gaud.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous pouvez nous expliquer cette nouvelle taxe ?
Donc comment les sénateurs peuvent-ils augmenter le prix d'une bouteille d'eau ? Eh bien c'est simple, en relevant la TVA de 5 à 20%. Ils estiment que la mesure pourrait rapporter entre 150 et 300 millions d'euros. Mais entre les deux chambres de l'Assemblée, rien ne va plus. Avant-hier, des députés ont déposé une proposition de loi transpartisane visant à inscrire le droit à l'eau dans la Constitution. L'objectif de la manœuvre ? Reconnaître l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit humain inaliénable et fondamental. Alors, cette décision de taxer davantage les bouteilles plastiques pourrait ne pas sembler mauvaise. Elle permettrait de réduire les déchets, surtout après le scandale des eaux en bouteille révélé en septembre dernier.
Et ce n'est donc pas une si mauvaise idée.
Seulement, si on oublie, Victoire, que 4 robinets sur 10 en France sont non conformes aux réglementations. Ils présentent des traces de pesticides et de polluants éternels selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Autre problème, 500 000 personnes en France métropolitaine ne disposent pas d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. C'est beaucoup, mais en Outre-mer comme à Mayotte, c'est au minimum une personne sur trois. L'eau en bouteille est donc une nécessité pour eux.
On sait que les biens de consommation sont plus chers dans les territoires hors de l'Hexagone. Nos compatriotes à l'étranger devront payer leur eau plus cher. C'est bien ça, Lucas ?
Alors, non, et c'est bien le seul point positif. L'Outre-mer est épargné par l'augmentation de cette taxe, ce qui montre que le personnel politique a bien conscience de la précarité des Français en dehors de l'Hexagone, sans pour autant la régler. Alors dans tout ça, heureusement que les sénateurs n'ont pas augmenté leurs frais de mandat de 700 euros en début d'année, on l'aurait eu quand même un peu mauvaise.
Merci Lucas Gaud, il est 7h50 sur Good Morning Tours. On revient dans quelques instants après une courte pause. Tout de suite, Sing de Travis.
Thank you.
C'était Travis avec le son Sing. Il est 7h54 sur Good Morning Tour, l'heure de l'interview. Jules Frécon, vous êtes désormais avec nous en studio.
Oui, Victoire, Lou Attard et Jules Bourbotte sont également là et je vais les questionner sur une enquête qu'ils ont réalisée dans le cadre de leur master à l'école publique de journalisme de Tours. Lou, Jules, vous avez enquêté avec votre collègue Mourjane sur les stages de survie. Comment vous est venue cette idée de sujet ?
Alors, tout d'abord, c'est un article que moi j'avais lu en 2021 qui parle de la mort d'un jeune qui s'appelle Ulysse et qui est décédé en fait dans un stage de survie en Bretagne. Donc c'est une histoire assez tragique parce que en fait il a été encadré par quelqu'un qui se faisait passer pour un professionnel, mais qui était surtout un gros mythomane. Donc il y a eu un procès, une enquête, on est même parti sur un rapport gouvernemental sur la sécurisation des stages de survie parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était une zone totalement grise au niveau de l'encadrement. Et c'est quelque chose qui avait mûri dans ma tête et quand on a commencé à devoir réfléchir à des enquêtes, j'ai tout de suite repensé à ça parce que ça m'avait énormément marqué comme article. Et en fait, c'est carrément devenu notre accroche. On est parti de cet événement-là et voilà, on a commencé notre enquête.
Ok, j'imagine que pour les besoins de votre enquête, vous êtes aussi allé sur place assister à un stage de survie. C'était comment ?
En vrai, c'était plutôt sympa parce que déjà, le stage de survie, nous, on l'a vu de près, mais de loin aussi. On n'a pas dormi dans la nature avec eux sous 3 degrés, donc ça, c'était plutôt cool de pas faire ça. Mais ouais, on est allé donc en Dordogne, à côté de Sarlat, rejoindre Denis Tribaudeau, qui est en gros un peu le leader des stages de survie sur le marché des stages de survie en France, et qui propose dans sa version la plus simple du stage de survie, en gros une nuit dehors, avec une journée construction de camp, amasser un peu de nourriture, apprendre à faire un feu, etc. Des trucs très basiques. Et ensuite dormir dehors à la belle étoile. Et voilà.
Ouais, c'était assez intéressant parce que Denis Tribaudeau, c'est quand même un pionnier en France du stage de survie. Donc il a quand même commencé quand c'est devenu hyper populaire, donc dans les années 2000, même s'il y a des gens qui ont commencé bien avant lui. Mais c'est quand même un truc qui vient quand même beaucoup des États-Unis et des sphères un peu complotistes, survivalistes, etc. Parce que le stage de survie, c'est ça. C'est jouer aux survivalistes. C'est se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit la fin du monde, quoi. Donc, Denis Tribaudeau, c'est un peu plus soft. On est sur quelque chose déjà beaucoup plus encadré niveau assurance, même si, en fait, dans les assurances, on n'a pas d'encadrement pour les stages de survie spécifiques. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez pro. Et
ouais, avec une envie de lui, de ce qu'il nous disait, de faire apprendre certaines techniques, certains aspects de la nature aussi, et au-delà de ça, une certaine vision aussi de ce que la nature nous apporte, de re-questionner notre rapport à la nature, à ce qu'elle nous donne dans la vie du quotidien, ce que nous, on peut aussi en tirer, tout en la respectant, etc. etc. Donc lui, de ce qu'il nous disait, il n'y avait pas de visée derrière... politique, okay. de messages, d'idéologies en tout cas qui sont dégagées. Après, c'est différent pour les participants qui viennent.
Vous parliez d'un marché des stages de survie, il y en a beaucoup en France
Ouais, il y a quand même. Il y en a beaucoup. En fait, il y en a beaucoup en surface déjà. Si tu tapes stage de survie sur internet, en fait, tu vas trouver de tout. Stage de survie VJF, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Il y a stage de survie team building, donc tu fais ça avec ton entreprise. En fait, il y a une espèce de pyramide qui part de la reconnexion du stage de reconnexion à la nature, où vraiment tu pars avec tes gosses faire du bivouac avec Denis Tribaudeau. Au point le plus dangereux, on va dire, c'est le maniement des armes. Où là, pour le coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus souterrain.
Illégal.
Et carrément illégal.
C'est ce qu'on retrouvera pas sur internet dans les propositions de stage. C'est vraiment des trucs qui se font en souterrain, comme tu disais, et qui s'obtiennent en ayant déjà un pied dans le milieu et en ayant fait plusieurs stages, en ayant des contacts. C'est vraiment beaucoup de bouche à oreille et des cercles assez fermés, quoi, que nous on n'a pas cherché à intégrer non plus. Hein, pour
oui, parce que...
de pas se mettre en danger.
Ouais, et c'est pour pas se mettre en danger, et c'est pas ce qui touche entre guillemets les premières personnes qui veulent faire des stages de survie, enfin les gens lambda en fait, ils vont pas chercher à intégrer directement des sphères survivalistes. Et pour le coup, on s'est appuyé aussi beaucoup sur le travail d'un anthropologue qui s'appelle Mathieu Burgalassi, qui a écrit un livre qui s'appelle La peur et la haine, ou La haine et la peur, je sais jamais.
La peur et la haine.
La peur et la haine. où il fait une espèce d'enquête, où il se... c'est vraiment une grosse immersion dans les sphères survivalistes les plus hardcore qu'on puisse voir. Donc là, c'est maniement des armes, étranglement à main nue de quelqu'un. Enfin, vraiment, là, t'apprends à être une bête de survie, quoi. C'est... Tu sors dehors, l'autre, c'est devenu ton ennemi. Alors que ce que Thibaudeau explique, c'est beaucoup plus comment survivre avec la nature, comment la respecter aussi. Ça, c'est super important pour lui.
Finalement, il y a un aspect un peu marketing dans le fait de survivre, parce que à aucun moment on vous demande de survivre. En fait, on vous demande juste d'évoluer dans un milieu qui n'est pas le vôtre au quotidien. Mais pour Denis Thibaudeau, il ne s'agit pas vraiment de survie. Pour les autres, on imagine des situations de vie ou de mort où on serait en danger permanent. Et surtout en danger vis-à-vis de l'autre, comme tu disais, parce que la violence vient de des autres.
Ouais, et c'est un peu le basculement du coup survivaliste, stage de survie basique. C'est que dans un stage de survie basique, on va essayer de se dépasser, d'apprendre de nouvelles choses, de sortir de sa zone urbaine en fait, tout simplement. Alors que les stages de survie beaucoup plus, on va dire, dangereuses, là pour le coup, c'est vraiment apprendre à se défendre quand quelqu'un en face de toi va être armé ou va vouloir te voler tes vivres, quoi. Donc c'est un autre aspect de la survie, quoi.
Ok, alors justement, par rapport au stage de survie plus basique, il y a une citation qui débute votre enquête. « Je ne regrette de ne pas avoir fait du scoutisme plus jeune. Je fais un stage de survie une fois par an. C'est le challenge pendant 2-3 jours. C'est comme un jeu. J'aime bien l'idée de se préparer au pire. » Ces mots, ils sont écrits au tout début de votre enquête, comme je le disais, et ils sont prononcés par Alex, un banquier d'une trentaine d'années. Il y a beaucoup de banquiers dans les stages de survie.
Vas-y, Bob.
Eh ben, plus que ce qu'on peut penser, finalement, parce que d'un aveu, on va pas dire général, parce qu'on n'est pas allé interviewer tout le monde, mais des gens qu'on a pu solliciter dans l'enquête, au final, le type de personnes qu'on retrouve le plus en stage de survie, finalement, c'est des types urbains, enfin, issus de milieux urbains, CSP+, donc qui correspond à cette situation de banquier, entre autres. Des gens qui, en fait, ont besoin de, comme il dit, j'ai pas fait de scoutisme, qui ont besoin, en fait, de se confronter à une épreuve un peu difficile qui va un peu les secouer pendant 2 ou 3 jours. Pour qu'ensuite, une fois retourné à la maison, et puis se dire, ah, c'est vrai que le confort qu'on a, c'est quand même un luxe. Enfin, il y a cette mentalité-là derrière. Après, j'aime bien l'idée de se préparer au pire, ça c'est autre chose. C'est une espèce de fantasme de fin du monde.
Mais oui, comme je le disais, il y a des banquiers, mais il y a de tout en fait. Et après, ça c'est quand même un point de vue avec lequel il faut prendre du recul, parce que ça, pour le coup, par exemple, c'est Denis Thibaudeau qui nous dit. Ou Eleonore Luna, qui est aussi une figure importante des stages de survie en France, c'est oui, il y a tous les profils dans nos stages. Mais ce n'est pas forcément vrai. Parce que qui va dans les stages de survie? Comme je l'ai dit, les urbains, les gens privilégiés. Parce qu'en fait, la survie, c'est quand même un truc de privilégié. C'est de se dire, mon Dieu, je suis tellement dans mon confort que là, je suis en train d'imaginer le scénario catastrophe, quoi. Mais ça n'arriverait pas dans certaines classes sociales, quoi.
Et ça coûte cher, surtout.
Et ça coûte cher, ça coûte très cher.
On vous vend des services, enfin, on vous vend au final pas grand-chose.
Tu manges des patates pour 200 euros.
Patates, dormir dehors et purifier de l'eau pour 200 euros. Quand
même. Ouais. C'est un week-end de stage de survie.
À peu près, ouais. Enfin, bivouac basique, le truc le plus
comme,
basique.
Comme on a présenté tout à l'heure, le truc auquel on a pu assister, ouais, c'est à peu près ça. On va chercher dans les 200 euros, ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins.
Ouais, il y a le gros haut de gamme, c'est partir à l'étranger. Donc pour le coup, ça, Denis Thibaudeau le fait, Eleonore Luna, etc. Donc c'est une semaine ou deux en mode Robinson Crusoe sur une île. Tu pars en Thaïlande ou tu fais Terra Incognita, donc tu sais pas où tu pars et t'apprends à l'aéroport où est-ce que tu vas. Donc ça, c'est sympa, marrant, mais ça coûte 2000 euros sans le prix du billet. Enfin bref, il y a des trucs, c'est un peu hallucinant. C'est un vrai business, c'est marketing à fond, quoi. Et c'est plus sympa de dire stage de survie que de dire scoutisme pour adultes. Donc en fait... on est vraiment sur les mêmes tâches, quoi.
Ça marche. Une petite dernière question. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez rencontré des difficultés pendant votre enquête, des personnes qui ne voulaient pas vous parler ou autre?
Y a un député qu'on a essayé de joindre.
Ça, c'est la bonne anecdote.
Pendant combien? 3 mois, peut-être.
Ouais, 3 mois.
Et qu'on a eu, en fait, au lendemain de finir l'enquête. On a fini l'enquête, on a terminé de tout écrire. Le jour même, je crois.
Ouais, le jour même.
Le jour où on était en train de monter l'enquête sur la page web,
On a eu finalement eu la réponse de ce député-là qui nous dit c'est bon, je suis dispo en voiture pendant 10 minutes. Enfin, il faisait un trajet en voiture, il avait 10 minutes à nous accorder. Ça faisait 3 mois qu'on essayait de batailler pour l'avoir. C'est un député, il n'est pas ministre, il n'est pas au gouvernement, etc. Donc il est certes occupé, mais on a un peu galéré à l'avoir. Ouais. Sinon, on s'est plus confronté à des gens qui ne voulaient pas nous donner toute la vérité ou tout. Enfin, ou être purement objectif, mais sinon, je trouve qu'on a réussi à avoir quand même des personnalités assez représentatives de ce que le milieu peut être et comment il a été étudié en tout cas.
Ouais, on a essayé vraiment de faire un panel assez large, mais c'est vrai que Aurélien Taché, qui est du coup le député qui nous a répondu à la dernière minute, c'est quand même la meilleure anecdote de cette enquête. Et au final, c'est aussi une leçon de pas lâcher quoi. C'est jusqu'au bout, c'était une des personnes les plus importantes parce que c'est lui qui a commandé le rapport sur la sécurisation des stages de survie. Donc c'était quand même une source principale, si ce n'est primaire pour nous. Et jusqu'au bout, on s'est dit qu'on allait l'avoir et qu'en en fait, on n'allait pas finir l'enquête et qu'on n'allait pas le finir si on n'avait pas sa citation à lui. Et on ne lui demandait pas non plus une heure. C'était 10 minutes de son temps. Donc voilà, on a forcé comme pas possible. On a eu son attaché de presse. Tellement de fois, enfin bref, c'était hallucinant.
Pour des propos au final qu'on avait, enfin des informations qu'on connaissait déjà, mais qui étaient importantes d'entendre et d'écrire en son nom. Quoi.
Ouais, et puis comme je l'ai dit, ce qui est dur, c'est effectivement que les gens prennent du recul, parce que le stage de survie, c'est, même s'il y en a qui sont pétris de bonnes intentions, en fait, c'est quelque chose qui amène quand même beaucoup d'ego et qui joue beaucoup sur le marketing, donc beaucoup sur l'image. Et en fait, ça a été une de nos difficultés, même si ça n'en a pas vraiment été une, parce qu'on était trois et qu'on a trois cerveaux qui ne fonctionnent pas du tout différemment. Donc en fait, il y a des trucs qui ne nous ont pas touchés de la même manière. Et c'était une force, en fait, parce qu'il y a des choses qui m'ont fait tiquer, qui n'ont pas forcément fait tiquer Mourjane, et inversement sur Jules. Et c'était important, en fait, ce travail d'équipe. Et moi, je suis hyper contente du travail qu'on a fait, en tout cas.
Très content aussi.
Et cette enquête, du coup, on pourra la lire quand et où?
Ah, grand mystère.
Alors ça, c'est un autre débat. En fait, on va essayer de la vendre, l'enquête. Donc, pour l'instant, déjà, on ne l'a pas complètement finie, puisqu'on parlait de ce député qui nous a parlé à la dernière minute. Donc, on doit toujours compléter l'enquête. On va essayer ensuite de la vendre à un média, chose sur laquelle il faut qu'on s'attelle aussi. Et une fois qu'elle sera vendue et potentiellement publiée, là, on pourra la retrouver sur le site magasin de l'EPJT ou les enquêtes précédentes, des étudiants de l'école ont été aussi publiées pour celles qui sont déjà parues.
Merci beaucoup à vous trois de cette interview. C'était très intéressant sur les stages de survie de votre enquête. Il est 8h06 sur Good Morning Tour. Et bien, c'est la fin de notre émission. Je remercie toute l'équipe du jour, Mathis Maudet pour les Flash Info, David Alias pour la revue de presse et la page internationale complétée avec la chronique de Lou Attard, Jules Bourbotte pour la chronique judiciaire, Lucas Gau pour sa chronique sur l'eau, Jules Frécon pour son reportage auprès des agriculteurs et son interview avec Lou Attard et Jules Bourbotte que vous venez d'entendre sur les stages de survie. Merci à Gabriel Ziard pour d'avoir assuré la technique ce matin. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle matinale, toujours sur 99.5 FM. Prenez soin de vous et agréable journée à tous.